Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le DAF qui nous fait l'honneur de sa présence et qui visiblement est très intéressé par le fait de me lécher les chevilles. Donc, je pense que c'est un ajout très important en
Oui,
cette
il est
journée.
très, pour cette journée, il est essentiel ce chien, parce que sans
Voilà.
ça, on ne saurait pas quoi
On
dire,
ne
hein, mon
saurait pas quoi dire. Voilà, c'est le Éric Zemmour de cette campagne.
grand-père.
C'est-à-dire, quand on ne sait pas de quoi parler, on parle du chien. Vous voyez, c'est utile. Visiblement, les journaux et politiques français, c'est la même chose. Quand ils ne savent pas quoi écrire, hop, ils sortent le sujet Éric Zemmour et ça leur fait un dossier de 10 pages. Donc voilà, on est ravis. On est ravis de savoir qu'Éric Zemmour sait nager, ce qui était quand même l'information capitale à avoir dans les prochaines semaines. Alors, à propos d'information capitale, nous allons essayer ici de traiter justement les sujets qui ne sont pas traités par les autres, parce qu'ils ont visiblement mieux à faire. Alors, cette semaine, on a beaucoup, vous auriez peut-être entendu parler de cette affaire Evergrande. Alors, Charles, qui est quand même sommité dans le monde de la finance, va essayer de vous expliquer un peu ce qui s'est passé, parce que je pense que c'est une question importante, parce que beaucoup de gens nous ont agité les foulards rouges en disant: Oh là là, c'est une crise des subprimes,
C'est
tout le monde
Lehman
va
Brothers.
sauter, c'est Lehman Brothers all over again, on va tous mourir, on va tous mourir. Alors,
Dans des
Charles,
souffrances terribles.
dans des souffrances terribles, évidemment, parce que sinon c'est beaucoup moins drôle. Qu'en est-il? Est-ce qu'on va vraiment tous mourir?
Alors, ça, c'est certain.
Oui, mais dans d'atroces souffrances ou pas?
Dans l'ensemble. Et assez rapidement. Bon, alors, essayons de récapituler un peu. Evergrande, qu'est-ce que c'est? C'est une très, très grosse société immobilière en Chine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a fait ce que font les sociétés immobilières souvent dans leur histoire, c'est-à-dire qu'elle a prévendu des appartements, elle a touché le cash de ces gens-là, avec lesquels elle a commencé les travaux. Et en général, en Chine, vous pouvez prévendre un appartement à peu près à 20-30% de la valeur de l'appartement, et ce sont souvent des petites gens. Donc il ne faut pas que ces gens-là perdent leur argent. Politiquement, ce n'est pas possible. Bon. Si Evergrande saute, la question c'est qui va reprendre les dossiers, les trucs qui ne sont pas finis? Et qui va, parce qu'il ne va pas, lui, reprendre et finir les appartements alors qu'il n'a pas touché les 20%.
Non.
Donc, il faut
Sauf
que.
s'ils ont gardé des immeubles, peut-être en levier,
En
je sais
levier,
pas,
peut-être qu'il
en
pourrait
nom
vendre d'autres
propre.
immeubles, mais enfin, grosso modo,
Ou
c'est
s'il y a
difficile.
des terrains, je
Se
sais pas.
mettre, voilà, s'il y a des terrains, on pourrait changer, mais c'est compliqué. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive dans ce qu'on appelle la Golden Week, la semaine dorée en Chine, où tout est fermé pendant une semaine parce qu'ils se baladent partout. Bon, c'est très bien, c'est le moment où ils vont fleurir les tombes, je sais pas quoi. Donc c'est très bien. Donc la Chine a une semaine pour régler le problème pendant cette semaine, puisqu'il va
En
rien se passer.
interne.
Bon, voilà, c'est bon. Alors quel est le problème d'Evergrande, qui est assez simple? C'est le problème de toutes les opérations immobilières qui ont sauté, c'est-à-dire qu'elles empruntent, elles empruntent à court terme et elles font des investissements à long terme. Et s'il y a un petit trou de cash flow, ben, elles sautent. Parce que en quelque sorte, la duration de leur bilan pour les emprunts est beaucoup plus courte que la duration de l'argent qu'elles vont toucher sur le long terme.
Mais normalement, une entreprise normale qui fait ça, ça se calcule,
Ça se
le
calcule.
gap que tu peux
Voilà.
te
Et en
permettre.
général, ce que le calcul qu'avait fait Evergrande, c'est que la Banque centrale continuerait à donner du fric, qu'il n'y avait pas de problème. Or, la Banque centrale suédoise, comme je l'ai dit depuis un nombre de fois considérable, a décidé de resserrer la politique monétaire depuis un an ou deux. Donc, ça saute. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ça saute? Bah, probablement, on va trouver deux ou trois sociétés à qui le gouvernement chinois, qui sont de la même taille ou un peu plus petites qu'Evergrande et qui vont racheter les différentes positions, les actifs à qui le gouvernement chinois va faire des fleurs avec des prêts, avec des taux très bas pour compenser les 20%. Ouais, bon.
Ou
Donc, bon,
des aides à la
voilà. Donc,
construction, des
ce
terrains
qui.
moins
Des
chers.
terrains moins chers, et puis je te rends service, et puis je me débrouillais pour te compenser dans les ordres futurs sur les chantiers de centrales nucléaires ou je sais pas quoi. Bon, donc ça, c'est le boulot du gouvernement, hein, d'essayer de trouver une cote mal taillée qui fait que ça marche. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, les actionnaires de Evergrande vont tout perdre. Ça va à zéro. Bon. Les obligataires de zéro qui.
Ça représente quoi le en
C'est
montant?
une grosse capitalisation. Ça doit représenter, oh, allez, à peu près 1,5 milliard d'euros de pertes. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est beaucoup, mais enfin, c'est pas la fin du monde, hein.
Et les gens qui ont acheté du Evergrande, qui ont des Evergrande à ce jour dans leur portefeuille,
Eh ben,
c'est
il va
des
ça,
petites gens ou
ben,
c'est
ben c'était
des.
dans la bourse, mais ça fait 6 mois que c'est en train de plonger, donc.
A priori, on aura liquidé ces positions.
J'espère que, en tout cas, nous, personnellement, d'abord, on n'en avait pas à l'époque, puis on n'en a pas racheté, parce que c'est des bons. Ça pue, c'était pas la peine. Donc, les actionnaires vont tout perdre. Les obligataires vont tout perdre, ceux qui ont prêté de l'argent à Evergrande. Surtout pour les prêts que Evergrande a fait, ce qui était contre la loi chinoise d'ailleurs, en grande partie, ils ont été empruntés des dollars offshore.
Ah oui, en plus.
En plus. Alors là, il est bien certain que les Chinois vont dire, les dollars offshore, ceux-là, vous pouvez toujours vous brosser, vous ne les reverrez jamais. Quoi. C'est, Donc il va y avoir une perte importante. Alors là, je ferai deux remarques. Ça n'est pas une banque.
Oui.
Parce que quand une banque fait faillite, comme Lehman Brothers était une banque, il faut mettre à zéro les actionnaires, mettre à zéro les obligataires, mais surtout ne pas toucher aux déposants. Parce qu'ils y sont mis sur le premier, ils ne comprennent rien. Et puis,
c'est oui, pas, t'as mis de l'argent de ta retraite.
T'as la table d'un seul
coup. T'as ton salaire.
T'as ton salaire qui est payé, puis d'un seul coup, plus rien. Donc, ce n'est pas une banque. Et donc, elle n'a pas d'effet multiplicateur dans le système bancaire. Ce qui s'est passé avec Lehman Brothers, c'est quand les gens ont vu que Lehman Brothers allait faire faillite, ils ont tous arrêté de se prêter de banque à banque. C'est-à-dire que tous les... Parce qu'ils se sont dit...
Ils se disent, oulala, qui a prêté avant ça à Lehman Brothers,
Ou peut-être c'est le prochain qui va faire
faillite.
Donc, je vais me retrouver. Donc, grosso modo, tout se bloque, tout se gèle. C'était ce qui s'est passé pendant 6 semaines où on est dans un browser, plus une banque ne prêtait de l'argent à une autre banque.
Oui, d'ailleurs, on l'a vu sur la vélocité de la monnaie et l'Asie qui se retrouvait
à zéro.
À zéro. Plus un dollar qui circulait.
Là, ce n'est pas une banque. Donc, il n'y a pas d'effet de multiplicateur bancaire qui est à craindre. Ça n'aura pas lieu. C'est juste un gars. Le deuxième remarque que je voudrais faire, et qui me semble essentiel, c'est que le capitalisme, jusqu'à plus en plein formé, ça marche si... Il y a des faillites. Comme le disait un de mes amis économistes, il dit « Le capitalisme sans faillite, c'est un peu l'église catholique sans enfer, c'est difficile à vendre. Ça marche pas. » Bon, on le voit très bien d'ailleurs, donc, dès qu'on parle plus de quand on parle plus de l'enfer, plus personne va à la messe. Quoi. Il y a une espèce de relation qui me paraît évidente. Bon, c'est pareil pour le capitalisme avec la faillite. Donc, pour celui qui détient des obligations chinoises, qui aurait acheté ses obligations chinoises sur recommandation, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il ne veut pas foutre à l'air la valeur de la monnaie pour sauver Evergrande.
Alors, explique bien ça, parce que beaucoup d'internautes me posent la question de nos followers, disent « Ah, mais alors, Charles qui recommandait terriblement la bourse chinoise... »
Non,
déjà, ah, voilà.
Les obligations.
Alors, c'est le premier truc que je leur dis, il n'a jamais dit la bourse chinoise, tu as toujours dit les obligations. On rappelle qu'il y a deux choses, les actions... Et les obligations, c'est pas la même. Une action, une obligation, vous prêtez de l'argent, une action, vous achetez un titre de la société et vous avez.
Vous avez abandonné votre argent pour une part de propriété.
Pour une part de propriété.
Là, vous avez prêté
vous
votre argent.
Un dividende.
Vous touchez un loyer. Là, avec une obligation, vous passez un contrat, par exemple, avec l'État chinois qui vous remboursera à la fin.
Parce que là, en plus, tu parles d'obligation d'État, pas d'obligation
plus,
de société
absolument,
en plus.
Absolument.
Qui a encore autre chose.
Encore autre chose, mais ça veut dire qu'il n'y a quasiment aucun risque. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que l'auditeur réfléchisse. La faillite d'Evergrande, ça amène quand même, qu'on le veuille ou non, à une diminution du nombre de yuan, de renminbi en circulation. Il y en a moins, puisque ça a fait faillite. Donc, les obligations ne valent plus rien, les actions ne valent plus rien, donc il y a moins d'argent dans le système. Bon, mais alors, à ce moment-là, pourquoi la monnaie baisserait, s'il y en a moins? Elle doit monter. C'est-à-dire que chaque fois qu'une banque centrale autorise la faillite d'un grand groupe, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens se disent, ils pensent que la monnaie est plus sérieuse que la faillite. La valeur de la monnaie est plus sérieuse. Donc, il y a quelque chose dans les marchés qui est très important, qu'on appelle le hasard moral. C'est-à-dire que si une banque centrale sort du trou tous les gars qui ont fait des mauvais placements à chaque fois qu'ils ont fait des placements, au bout d'un certain temps, les gens se disent, la monnaie, ça ne vaut plus rien.
Bah c'est exactement ce qui se passe en Europe, voilà. Avec la BCE, où depuis 2008,
ils achètent
tout le monde. Donc on se retrouve avec un QE hallucinant, c'est-à-dire
une masse monétaire qui augmente pour
empêcher que droite, gauche, milieu saute. Des banques sous-capitalisées, mais ça finit par même plus faire peur, parce qu'on se dit, de toute façon, ils viendront derrière.
Donc ce que fait la Chine, c'est qu'elle dit, vous avez fait de mauvais investissements, vous n'avez pas vraiment respecté les réglementations, vous avez fait n'importe quoi, donc vous perdez tout. Et ben, je trouve que c'est très bien. Hein. C'est ça la base du capitalisme. Si les types qui font des investissements, comme ça se passe en France, sont à chaque fois sauvés par la Banque centrale...
Il n'y a plus d'enfer.
D'abord, il n'y a plus d'enfer, et surtout, il n'y a plus de risque. C'est-à-dire que tout le monde peut faire des saloperies, puisqu'à chaque fois, celui qui fait des saloperies est sauvé. Donc, non, celui qui fait des saloperies, qui gère mal, qui fout en l'air le capital qui lui a été confié, eh ben, il doit être ruiné. C'est ça la base du capitalisme. S'il n'y a pas de ruine, le capitalisme est complètement immoral. C'est ce que j'appelle le capitalisme de connivence.
Et c'est ce qu'on a en Europe. Mais est-ce que tu crois, parce que certains disent ça, que cela peut avoir une influence en Chine à partir du moment où il y a eu quand même cette perte, où les gens peuvent prendre peur, sur la vente et les achats de produits de luxe, parce qu'ils sont quand même énormément consommateurs de nos produits
Made in Pinot. Ils sont consommateurs de nos produits Made in Pinot ou Made in Arnault. Oui, ça peut avoir une influence, mais pendant quelques temps. Mais qu'est-ce qui va se passer
si c'est quoi, quelques temps, 6 mois
les quelques mois qui viennent. Mais ce qui va se passer, c'est que du coup, quand les gens vont réaliser ce que je viens de dire, ben, la monnaie va monter. Donc, les produits Pinot et Arnault deviendront moins chers.
Oui, puisqu'ils sont d'import.
Donc, à ce moment-là, ils vendront plus. Parce que le niveau de vie en Chine aura monté à cause de la hausse de la monnaie. Ça favorise les consommateurs. Donc, grosso modo...
Donc toi, ça t'inquiète pas?
Ah, moi, je suis enchanté. Non seulement ça m'inquiète pas, mais je me dis, ça me confirme parfaitement dans mon analyse que la Banque Centrale Chinoise, c'est le successeur, la fille naturelle, si j'ose dire, de la Bundesbank, et que ceux qui font n'importe quoi avec l'argent, ils en prennent plein la tête pour pas un rond,
donc,
et ils sont ruinés.
Que sans guideline, c'est la monnaie, la monnaie, la monnaie.
Voilà, c'est grosso modo ce que dit le Chinois. Ce qui nous importe, c'est la valeur de la monnaie. Maintenant, s'il y a des gars qui ont pensé que la valeur de la monnaie allait baisser, eh ben, ils perdent tout et c'est bien fait pour eux. Et puis, on va essayer de vite. Et on s'en fout. On va essayer d'atténuer les effets sociaux, mais on s'en fout. Au contraire. Ça veut dire qu'il ne reste que ceux qui utilisent bien la monnaie. Faut pas oublier que le capitalisme est un système darwinien. Donc, si on empêche tous les corneaux de sauter, on se retrouve qu'avec des dinosaures et on n'a jamais les. Les mammifères, quoi.
Ouais, ouais. Alors, on va parler du sujet des sous-marins tout à l'heure, mais avant ça, là, Charles était avant ça dans un meeting, et je t'ai entendu dire un truc qui était intéressant à propos des États-Unis, donc là, on change donc de continent, sur le fait que... dans une certaine catégorie de la population, il y avait des offres de travail, mais que les gens ne trouvaient pas. Alors, tu disais à ce propos, oui, visiblement, donc les salaires ne seraient pas assez élevés, parce que bon, c'est sûr que si on remonte le niveau par heure, c'est à $8 de l'heure et que tu le passes à 12, tu vas peut-être trouver plus de personnes pour travailler à $12 de l'heure.
C'est probable, c'est même certain.
C'est voilà. Et donc, est-ce que tu peux expliquer ce phénomène-là et ce qui se passe aux États-Unis pour que, à ton avis, cette non-adéquation entre un marché du travail et l'offre?
Ce qui se passe, c'est très intéressant, c'est que, allez, pendant 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, je ne sais plus très bien, le partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail s'est fait toujours en faveur du capital. C'est-à-dire qu'avec la globalisation qui est arrivée, si les types ne voulaient pas prendre le boulot à $8 de l'heure, eh ben on trouvait un gars en Chine qui allait le faire à $2 de l'heure, et puis le type se retrouvait en cabane. Bon, il n'avait rien. Mais maintenant que la globalisation est en train de se péter partout, qu'on se rend compte qu'avoir toutes les industries en Chine, c'est pas une bonne solution.
Et que les gens veulent des produits aussi plus qualitatifs, et puis font attention aussi où le produit a été développé.
Absolument.
Surtout aux États-Unis où il y a vraiment ces normes.
Absolument. Donc c'est très important. Donc les gens se disent, à $8 de l'heure, de toute façon, je vis pas ou je vis pas bien, ou je vis pas très bien. Donc, vous payez plus. C'est-à-dire qu'il est en train de se passer un phénomène extraordinaire à 1%. Dans le balancier, quand vous produisiez 100, pendant longtemps, mettons qu'entre le capital et le travail, c'était 50-50, allez, pour faire simple. Il y avait 50% qui allait aux travailleurs, 50% qui allait aux capitalistes. En fait, c'était moi-même. Mettons 50-50. Puis on est passé à un moment où il y avait 70% qui allait au capital et 30% aux travailleurs. Le balancier est en train de revenir dans l'autre sens. Et le travailleur dit, si ça vous fait rien, la démographie est en train de baisser, il y a de moins en moins de travailleurs, vos produits chinois, plus personne ne veut les acheter parce que, etc., etc.
Je disais que dans la population de souche américaine, on est en train de passer en dessous de, les Canadiens aussi, des seuils européens.
Oui,
on est en dessous de 2 enfants.
On est en train d'arriver à 1,6, 1,7 aux États-Unis, qui est tout à fait remarquable. Bon. Bref, donc ce qui va se passer, c'est que le balancier est en train de passer en faveur du travail, et donc là, vous avez le choix si vous êtes un homme d'affaires, soit vous embauchez pas les gars, soit vous les embauchez plus cher. Et à ce moment-là, la question, c'est si vous les embauchez plus cher, est-ce que vous montez vos prix d'autant ? est-ce que tu vas monter tes prix? Mais tu peux monter tes prix si les autres ne montent pas, montent les leurs, mais si toi tu les montes, si les autres ne montent pas.
Enfin, si tu fais de la lessive et que les concurrents font de la lessive aussi et que tu ne peux pas te permettre d'être 10 dollars plus cher, sauf si tu as un produit vraiment concurrentiel, très différent.
Sauf si tout le monde a les mêmes comptes et dit, moi, je peux pas, il faut que je monte mes prix. Donc, ils se mettent, ils se donnent 2 ou 3 coups de téléphone en disant, dites-moi, qu'est-ce que tu fais? Ben, voilà. Donc, tout le monde monte les prix en même temps. Ça veut dire que, une fois de plus, ce que j'ai dit souvent aux gens, c'est qu'on a eu 40 ans de non-inflation, et qu'on arrive peut-être à la fin de cette période. Donc
indépendamment de l'inflation, la masse monétaire il y a aussi une inflation qui risque d'être créée par les prix.
Absolument.
Mais alors, le truc que je ne comprends pas bien, c'est qu'on nous vend toujours les États-Unis comme un pays où il n'y a pas d'amortisseur social. C'est-à-dire que c'est vrai que les gens ne touchent pas de RMI.
Pendant la crise, là, ils ont été payés plus en restant à la maison qu'en allant bosser. Alors ça aussi, ils ont pris une mauvaise habitude. Ils ont dit, mais moi, si je reste à la maison. Alors maintenant, ça va s'arrêter, ces espèces de... Mais en même temps, les types se disent, bon, ben...
Après, on assiste effectivement à des nouvelles générations où le fait d'avoir un canapé, une connexion Internet, ça leur va bien.
Ça leur va bien. Et puis,
ils ne voient pas du tout pourquoi ils devraient avoir le rêve américain, une voiture, une maison dans les suburbs, deux enfants, un crédit.
Donc il y a ça aussi, il y a un changement de civilisation. Et je le vois dans la jeune génération en France. Je vais beaucoup moins aux États-Unis pour des raisons que chacun comprendra. Parce que ce n'est pas facile d'y aller. C'est même impossible. Et je me rends compte que dans cette génération, mettons qu'ils ont 25-30 ans aujourd'hui, le travail est une notion un peu dévalorisée. Quoi.
Oui, voilà, c'est ce que je te disais.
Ils se disent, mettre au boulot dodo, c'est pas ma vie. Hein.
C'était cette nouvelle génération Y, tu sais, qui ont des lettres en sociologie. Et depuis la génération Y, justement, l'idée, c'était de dire, oui, nous, on met beaucoup plus en valeur notre qualité de vie.
Voilà.
Et quand on demandait aux jeunes, est-ce que vous pensez que vous travaillerez pour la même société pendant 15-20 ans, ils disaient, enfin, vous n'y pensez pas. C'est-à-dire, et on observe, effectivement, sociologiquement, le fait que les jeunes travaillent 9 mois, mettent des pépettes de côté, puis après font plus rien pendant 9 mois, puis après reprennent un job temporaire, et ainsi de suite, c'est-à-dire avec des césures, mais voulues.
Voulues, ils gèrent leur temps de travail.
Et alors, il n'est plus question non plus d'avoir ces horaires d'avocat, les cabinets.
Même chez Goldman Sachs, il y a une espèce de révolte des juniors, là, qui ont dit, écoutez, les 80 heures par semaine, si vous êtes gentil, mais c'est fini, voilà. Quoi, on ne dort plus au bureau, quoi.
Voilà, alors que nos générations, on ne remettait pas
ça
en cause.
On était contents d'être chez Goldman Sachs, alors on bossait comme des malades.
On faisait comme des fous, c'était à celui qui mettra le plus d'heures dans la compta. Et maintenant, c'est plus ça. Alors, bien sûr, en raison gardant, bien sûr que tu vas bosser beaucoup chez Goldman Sachs, mais il n'est plus question de faire des all-nighters.
Non, c'est tout à fait. Et alors, il se passe un autre phénomène aussi qui me trouble, j'en ai parlé ici une fois d'ailleurs. C'est le suivant, c'est que, la façon dont une banque centrale fonctionne, c'est qu'elle a dans sa tête une espèce de truc en disant, bon, le PNB est à 120, allez, normalement, il devrait être à 140. Donc il y a une espèce de capacité inemployée, de gens qui pourraient travailler, de machines qui sont inutilisées, etc. Bon. À ce moment-là, si je mets de l'argent dans le système, ça n'a pas beaucoup d'effet, parce que tant qu'on est en dessous de 140, ben les gens, c'est la capacité, la production qui montera, et c'est pas l'inflation. Bon, très bien. J'espère que les gens voient pas. Ils essayent de calculer le PNB potentiel et de le mesurer par rapport où on est aujourd'hui. S'il y a un trou entre les deux, on peut mettre de l'argent dans le système, c'est pas grave. Bon. Et on fait ça aussi pour la population. On dit, bon, ben la population, mettons qu'il y ait 80 millions de gars qui peuvent travailler, des hommes, s'il n'y en a que 75 qui travaillent aujourd'hui, il y en a 5 qui devraient travailler, et puis le reste, bon. Mais il se passe un phénomène curieux aux États-Unis, c'est que il y a à peu près 2 ou 3 millions de gars qui ont disparu des statistiques. On ne sait pas où on sait. Donc la banque
centrale... Je crois qu'on en avait parlé, blagué en disant qu'ils étaient dans la montagne de Ayn Rand.
Dans la montagne de là-bas. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que la Banque Centrale dit, bon, il y a 80 millions de gars qui peuvent bosser, mais s'il y en a 2 ou 3 qui disent, en aucun cas je bosserai, il y en a plus que 78. Donc, s'ils mettent de l'argent pour ramener à 80, ça va faire de l'inflation dans les salaires. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer.
Alors d'ailleurs, c'est drôle parce que...
C'est un peu compliqué ce que j'ai dit, j'espère que les gens ont compris. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que la Banque Centrale essaye de mettre de l'argent par rapport à un truc potentiel. Mais si le truc potentiel est beaucoup plus bas que ce que la Banque Centrale croit... Si elle remet de l'argent, ça va faire. L'argent, il va aller quelque part. Quoi.
Ça amène à la question que t'as posée tout à l'heure l'intervenant, qui était à propos du Bitcoin. Et tu avais fait ce parallèle rigolo, parce que là, en gros, ces 2 millions de personnes qui ont disparu, on pourrait imaginer que ça pourrait être des survivalistes.
Oui, tout à fait, qui seraient là-bas quelque part dans les Rocheuses.
Voilà. Mais, et alors, ce qui est très drôle, c'est que dans les milieux survivalistes, où vraiment, genre, San Grigio, enfin des trucs vraiment comme ça, les gens sont très investis souvent sur le Bitcoin.
Oui.
Or, s'il n'y a plus d'électricité, ce que les survivalistes anticipent, puisqu'ils disent, en gros, il faut être autonome parce que le système va se crasher un jour. Comment ça se passe? Alors, je veux bien que tu aies un générateur, mais enfin, si le système, vraiment, je ne sais pas si, si tous nos ordinateurs, s'il y a une espèce d'énorme breakdown...
Si l'Internet n'est pas là, comment tu fais? Comment tu touches tes bitcoins ou tu les envoies? Tu peux rien faire.
Et comment tu vas chez le paysan, lui échanger des bitcoins contre... Donc, j'aimerais bien que tu redéveloppes ce que tu l'as développé, quand tu lui disais, voilà, pourquoi je ne crois pas tant que ça, moi, en tant que... Alors, bon, bien sûr, tu pars du principe qu'il est trop vieux. Mais au-delà d'accord. de ça, pourquoi
je
le bitcoin,
vieux,
t'es moyen?
Le bitcoin, d'abord, comme je dis, une monnaie, ça a trois caractéristiques, instrument d'échange, réserve de valeur et unité de compte. Bon, très bien, c'est les trois fonctions. Et historiquement, ça a toujours été adossé à un État. La monnaie, c'est César, comme je l'ai souvent dit. Donc, ce qui m'embête avec le bitcoin, c'est que ça n'est pas une réserve de valeur, ça. Ça monte, ça baisse. Bon, ça a gagné de l'argent. Mais dans l'ensemble, tu peux pas considérer que c'est un étalon de valeur parce que ça double ou ça baisse, ça diminue de moitié en une journée. Donc,
d'ailleurs, à ce propos, l'or n'est pas une monnaie non plus.
L'or n'est pas une monnaie aujourd'hui parce qu'elle n'est pas adossée à un État. Mais en même temps, tout le monde l'a toujours accepté. Donc, il y a aussi une
effet. Pourquoi? Parce que l'or, c'est beau.
Parce que l'or, bah... Genre,
si on avait plus de diamants ou plus de rubis, on aurait accepté les pierres aussi, je suis sûr.
L'or, c'est aussi le seul truc qui soit complètement... Vous laissez de l'or dans une cave pendant 1000 ans, il n'a pas bougé, il n'y a pas eu de...
Il faut juste le retrouver, parce que la Terre aura bougé, mais tu peux...
C'est ça. Bon, donc ça, c'est pas une monnaie. C'est pas adossé à un État, et qu'on le veuille ou non, ça dépend de l'électricité. Donc, du maintien de l'ordre. Donc, je regarde ça et je me dis, bon, moi, si je vais voir un paysan en lui disant, écoutez, tout s'est effondré, il se trouve que vous pouvez me nourrir pendant une semaine avec ma famille, et je lui donne une pièce d'or à Napoléon, le type, il va comprendre. Hein. Et que ce soit un paysan chinois, un paysan russe, un paysan français, un paysan n'importe quoi, le paysan qui voit une pièce d'or, il comprend. Donc, il me nourrit pendant une semaine. Si je vais le voir en lui disant, dites donc, dès que l'électricité est revenue, j'ai plein de bitcoins dans mon... Regardez là, dans la... je ne peux pas vous les montrer, mais enfin, en fait, j'en ai là, donc je vous paierai à ce moment-là. Le paysan, il va me dire, écoutez, cher ami, continuez à la sauter, quoi. Il ne va pas me vendre mon...
Ton poulet.
Son poulet et ses poireaux. Donc, il me semble que le bitcoin, c'est une idée extraordinairement intéressante de ce que pourraient être les monnaies dans le futur, etc. Mais... J'ai un gros problème parce que c'est censé me protéger contre un danger ultime, mais si ce danger ultime se matérialise, je vois pas comment ça me protège. Donc j'ai une espèce de problème logique là. Donc je me dis, bon écoutez, moi je...
T'as un non-sequitur de faim.
J'ai un non-sequitur de faim. Il y a un saut logique que je suis pas prêt à faire. Et donc je dis, bon écoutez, je suis trop vieux, je comprends pas.
Ça m'étonne. Oui, mais ça en laisse plus pour les autres. Mais
ça en laisse plus pour les autres, mais ceci dit... Rater des occasions d'achat, ça m'est arrivé 40 fois dans ma vie. Hein. C'est pas pour rien qu'on appelle ce métier le temple des regrets, quoi, parce que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça d'ailleurs. Ce qu'on aurait dû faire n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce qu'on a fait. Quoi.
Ce qui nous amène sur le sujet fondamental de cette semaine, sur lequel tu as écrit pour l'Institut des Libertés, que je vous invite à regarder, donc sur cette affaire de sous-marin. Sur cette affaire de sous-marin vendu puis non acheté par l'Australie, ce que ça représente véritablement comme question sous-jacente et ce que ça veut dire aussi en redéploiement des forces géostratégiques à terme. Alors, tu as toute une théorie sur cette question.
C'est une théorie sur tout.
Voilà. Qui est, mais ça, c'est normal, c'est le complot. Hein, En plus, comme tu es payé par la Chine, c'est normal, tu es là pour vendre quand même.
J'ai beau leur dire, mais pas assez, c'est ça.
Oui, voilà. Donc, est-ce que tu peux un peu revenir sur,
oui, je veux bien
ta théorie ?
Ma théorie, c'est... Bon, il faut essayer de comprendre. Il faut se replacer un petit peu en arrière. Essayons de comprendre ce que c'est que l'OTAN. Vous savez, c'est l'alliance militaire de l'Atlantique Nord.
Ah oui, ça, c'était ma deuxième question.
C'est le... Bon, alors... L'OTAN, c'est une alliance militaire qui avait été faite par les Américains, qui était défensive, c'est-à-dire que si un des États de l'OTAN était attaqué par une tierce partie, à ce moment-là, tous les États de l'OTAN étaient immédiatement en guerre contre lui, quoi. Donc c'était pas une alliance offensive. Si un État de l'OTAN attaquait quelqu'un, les autres n'étaient pas obligés d'y aller. Mais s'il était attaqué
lui-même, même,
à ce moment-là, tout le monde y allait. Bon. Et c'était sous le commandement des États-Unis, et c'était pour bloquer l'Union soviétique. Bon. Fait. L'Union soviétique disparaît, c'est remplacé par la Russie. Moi, je me dis, à quoi sert l'OTAN aujourd'hui? Bonne question. Donc, au début, la Russie s'effondre, bon, il ne se passe rien, l'OTAN reste. Et puis, grâce à Dieu, pour l'OTAN, il y a Poutine qui arrive, qui remet de l'ordre dans la Russie, et qui la retransforme à nouveau en un ennemi comptable. Donc, l'OTAN retrouve... Enfin, j'ai quelqu'un.
On a failli rien avoir
à se mettre sous la dent. Et là, il y a un type qui est là. À un moment, je crois que Poutine envisageait de rejoindre l'OTAN. C'est pour vous dire à quel point il était ennemi. Quoi. Enfin bref, Poutine décide. On décide que Poutine, c'est l'ennemi.
On a un nouveau grand méchant loup.
On a un nouveau grand méchant, on peut lui taper dessus, c'est parfait. Tout le monde est content. Bon. Mais à ce moment-là, l'OTAN est censé nous protéger en Europe contre la Russie, donc. Mais il se trouve que l'Europe a un grave problème énergétique. Et donc, elle a besoin d'énergie qui arrive de l'extérieur, puisqu'elle est déficitaire. Et les Russes ont signé avec les Allemands, les Français, etc., un contrat de fourniture de gaz.
Avec ces deux énormes pipelines.
Il y en avait déjà un, et puis ils en ont fait un deuxième. Alors les Américains ont gueulé comme des ânes en disant « Mais dites les gars, on est censé vous protéger contre le gars qui va vous rendre complètement dépendant de son gaz. Donc, on ne voit pas très bien pourquoi vous le considérez comme un ennemi, quoi, ces gars.
Vous avez des liens commerciaux, non ?
Vous avez des liens commerciaux, mais en plus des liens commerciaux, il suffit que les Russes coupent le gaz et l'industrie allemande s'arrête, quoi. Instantanément. Donc les Américains disent, on ne veut pas que vous signiez ce contrat. Bon, on le signe et on termine. Et ce pipeline a été complètement financé par les Français, les Allemands et les Hollandais. Complètement financé, qui sont les trois puissances de l'OTAN. Alors, qu'est-ce que font les Américains ? D'abord, ils ne sont pas contents. Et ils se disent, il faut qu'on fasse quand même quelque chose que les Européens comprennent. Donc, on ne peut pas vraiment taper sur les Allemands, parce qu'ils ont des élections, puis c'est les Allemands. Vous savez ce qu'on va faire ? On va taper sur les Français. C'est la bonne pratique. Tu sais, si dans une bagarre, tu as un gros qui te met un coup, tu te retournes et tu mets un énorme coup au petit qui est à côté, quoi, tu vois. C'est le principe de base des bagarres, ça. Et donc, on tape sur les Français.
Bon, sans compter que Macron est très irritant.
Et puis Macron, ça faisait 3-4 ans qu'il disait que l'OTAN était morte, qu'elle avait un électroencéphalogramme plat, qu'elle ne servait plus à rien et tout. Bon, moi, l'OTAN est morte, très bien. Donc, on dit aux Australiens et aux Anglais, qui ont quitté l'Europe d'ailleurs, mais qui sont restés dans l'OTAN, vous savez quoi ? L'OTAN, c'est foutu. Ça ne sert plus à rien. On va refaire la bonne vieille alliance militaire de 1940 à 1945, qui marchait très bien. L'Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis, les anciens, tous les pays qui parlent anglais. Et puis les autres, on les emmerde. Ça veut dire, si j'ai raison, ça veut dire quelque chose de très intéressant, ça veut dire que l'OTAN est mort. Ça veut aussi dire que les États-Unis ne s'intéressent plus à l'Europe. Ils disent, c'est plus mon problème, je les ai soutenus pendant 50 ans. Je les ai défendus militairement. À la première occasion, ils me donnent des coups de pied dans les chevilles. Ça va bien. Donc, ils vont retirer leur armée. Mais ils ne vont pas la retirer d'Europe. Ils vont emmener une partie de leur armée qui est en Allemagne, ils vont aller la mettre en Pologne. Et puis peut-être aussi en Hongrie, comme ça. Juste pour faire... Voilà. Mais ça veut dire que... Allez, allons jusqu'au bout de notre raisonnement. Pendant très longtemps, les États-Unis ont été les principaux soutiens de la construction européenne.
Oui, bien sûr. C'est eux qui sont à la source.
C'était même la source avec Jean Monnet, etc. C'est eux qui ont tout... Ils vont dire maintenant... Ils nous cassent bien les pieds. Et donc, il n'y aura plus le soutien permanent des États-Unis à la construction européenne, qui risque du coup de se retrouver un peu. Et puis, ça amène à la question fatale que je pose toujours aux gens, ils sont incapables de me répondre. Je leur dis, bon, alors, il n'y a pas d'armée belge, il n'y a pas d'armée hollandaise, il n'y a pas d'armée danoise, il n'y a pas d'armée allemande. Il n'y en a plus. Les types sont syndiqués. Quand on les attaque à 6h du soir, ils disent « Excusez-moi, c'est l'heure où j'entre à la maison. »
Oui, mais on l'a vu, là. On a eu le dossier passé devant la devant l'Europe des 35 heures dans l'armée.
Les cours de justice européenne se permettent de dire que l'armée française doit faire les 35 heures. Enfin, je veux dire, alors que dans le traité original, il y avait marqué qu'en aucun cas, les cours de justice ne devaient s'occuper des affaires militaires. Ça ne les a pas empêchés de déborder, de le faire quand même. Bon, donc ça veut dire qu'on est en pleine déliquescence. Et donc, si l'armée américaine s'en va, comme le disent les Finlandais, ce que j'ai déjà dit ici, je pense, c'est qu'il y a toujours une armée dans un pays. Hein. C'est soit l'armée du pays, soit l'armée des pays à côté. Quoi. C'est... Donc les Finlandais, ils savaient de quoi ils parlaient, parce que d'un côté, ils avaient les Russes, et de l'autre côté, ils avaient les Suédois. Donc ils ont passé leur temps à les envahir, mais c'était pas un cadeau d'envahir la Finlande. C'était les Russes.
Les Suédois, ils avaient l'habitude quand même.
Les Suédois, ils avaient l'habitude, mais les Russes, ils ont. En 1940, c'est le seul pays qui a fait reculer l'Union soviétique. Hein. C'est des... Bon, les Finlandais sont des têtes de cochon, donc ils aiment pas être envahis. Très bien. Mais alors, si l'armée américaine s'en va, ou reste des postes isolés, comme dans les pays baltes ou en Hollande, ou en Hongrie, quelle va être l'armée en Europe? Parce qu'on ne peut pas rester sans armée. Bon, il reste un croupion d'armée française qui pourrait servir, le cas échéant, pour peu que les autres soient d'accord, mais c'est pas certain. Et il y a deux grosses armées en Europe, hein, qui sont parmi les plus grosses du monde, qui sont la Turquie et la Russie. Donc la grande question, c'est est-ce que ça va être l'armée russe qui va remplacer l'armée américaine, ou est-ce que ça va être l'armée turque? C'est ça la vraie question européenne pour les 20 ans qui viennent, quoi. Et à ça, j'ai pas de réponse. Mais les Allemands commencent à faire des mamours pas possibles aux Russes. Et j'ai vu qu'il y avait... Non, c'est pas Macron, d'ailleurs, qui a dit qu'il fallait rouvrir le débat avec la Russie.
En tout cas, il y a des bouteillons qui arrivent régulièrement et qui sont encore sortis hier sur la remise en cause du siège de l'ONU.
À New York.
Oui, et en fait, l'idée, encore une fois, d'un fédéralisme de l'armée au niveau européen.
C'est voilà, quand même... on pourrait essayer de bâtir quelque chose. Si les autres Européens disaient, écoutez, il reste l'ossature d'une armée en France, il n'y en a plus ailleurs. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est tous vous financer pour que vous en fassiez une armée. Et puis, vous pourriez former tous les gars qui voudraient être dans l'armée hollandaise ou dans l'armée belge pour les 20 ans qui viennent. Donc, on utilise vos écoles militaires ou j'en sais rien. Donc, on pourrait essayer de structurer une armée européenne autour de la France, mais jamais l'Allemagne ne l'acceptera.
Honnêtement, c'est une très mauvaise idée, parce que des armées, d'une nation européenne, et c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut une Europe des nations, pas une nation européenne.
Moi, je veux qu'il y ait une armée française qui défende la France.
Voilà.
Une armée française qui défendrait la Belgique, ou la Pologne, on a déjà essayé dans l'histoire, ça marchait moyen.
On a plutôt eu des Polonais qui venaient défendre les Français que l'inverse.
Oui, c'est arrivé. Quand on a essayé de défendre la Pologne en 40, les résultats n'ont pas été terribles. Bon, donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'Europe n'a plus d'armée, n'a pas de structure de commandement, que l'économie, ça marche pas, et donc on se retrouve... Ça risque quand même d'être un peu difficile en Europe, quoi. Au moins en France, grâce à l'héritage du gaullisme qui traîne encore dans les cervelles, il y a encore une armée. Ce que disait De Gaulle, c'est que l'épée est l'axe de l'histoire, c'est-à-dire l'armée, c'est ce qu'il y a. Enfin, pas l'armée, mais les guerres, etc. Donc, quand je discute avec des tas de gens, comme je l'ai fait à Genève, les gens me disent « Mais c'est horrible la guerre, on n'a pas besoin de l'armée. »
Give war a chance.
Give war a chance. J'ai un grand moment de lassitude en disant « Mon Dieu, comme ils savent peu de choses de l'histoire, et comme ils ne savent pas que l'histoire est cruelle. » Donc, il me semble que la grande question, ça va être la défense des nations européennes et qu'elle devra être traitée pays par pays, parce que l'idée de la défense européenne, c'est à peu près aussi intelligent que l'idée de la monnaie européenne. Quoi. Tu vas pas mourir pour défendre Bruxelles, quoi.
Voilà, je pense que ça donne un bon ticket de fin. On ne va pas mourir pour défendre Bruxelles.
Enfin, je crois pas. Moi, pas moi, en tout cas.
Non, c'est tu meurs pas pour défendre une norme européenne ou un CERFA C22.
Oui, et tu vas pas mourir pour Barnier, allez, comme chef.
Voilà. Donc, ouais, non, mais moi, ce qui me fait très peur, c'est cette multiplicité de candidats. Là, tu me cites Barnier, ça me... D'ailleurs, lui aussi, tu vois.
Lui aussi.
Il est effondré. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis encore cette semaine. On a essayé de faire des petits points d'actualité et de traiter des sujets d'économie et là, cette semaine, un peu de géopolitique. Mais je pense que ça retombe dans l'économie quand même, de cette espèce de réadaptation des pays du Commonwealth les uns avec les autres et le fait de nous, en tant qu'État français, de nous reléguer en deuxième division. Quoi.
Bah, quand les Américains nous ont tapé sur la tête, ça voulait dire qu'ils n'ont pas peur de nous du tout. Quoi.
Ouais, voilà.
Ils ont peur de l'Allemagne, quelque part.
Non. Ni peur, ni respect.
Ni peur, ni respect, exactement.
Voilà. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis, et à la semaine prochaine, donc. Merci.
Merci.